Chapitre 53. Lovée au creux d'un fauteuil, emmitouflée dans une couverture, la jeune rescapée a repris quelques couleurs. Kate lui a préparé un thé noir très fort qu'elle intègre à petite gorgée. Judy ne remarque pas immédiatement son père quand celui-ci entre, mais lorsqu'elle relève la tête, Chris saisit au passage l'intensité du regard qu'ils échangent. Il est le seul à en connaître la véritable raison. La présence de Kate et de Rod, qui se tient en retrait, leur impose des retrouvailles sobres et silencieuses, mais l'émotion est palpable pour qui sait la décrypter. Hanford s'avance et s'agenouille devant sa fille. Il lui saisit les mains tel un pénitent devant une sainte dont il implorerait le pardon. Sans bruit, il articule des mots qu'elle seule peut voir. Kate contourne Renard dans le frôlant et lui murmure à l'oreille. Mallory a fini par arriver d'on ne sait où, sans un mot d'explication. Depuis, il est planté là comme un piquet, sans savoir où se mettre. Vous avez vu sa tenue? Chris jette un œil et constate que le gardien porte une combinaison ajustée, entièrement noire. Il ne lui manque que la cagoule. Renard se décale et, frôlant Kate à son tour, passe délicatement la main pour lui emprunter le Glock qu'elle porte à la ceinture. Vous permettez? Rod et moi devons avoir une petite conversation. Je vais certainement avoir besoin d'arguments. Sans lui laisser le temps de réagir, Renard va directement se planter devant l'intendant. Glissant ostensiblement l'arme dans sa poche en la pointant vers lui, il souffle. On doit parler. Suivez-moi dehors. Contre toute attente, Mallory lui obéit sans hésiter. Les deux hommes trouvent refuge dans le hall du manoir ouvert à tous les vents. L'odeur de fumée est omniprésente et le courant coupé. À l'étage, on entend les dernières braises finir de craquer. Chris fait signe à Mallory de s'asseoir sur les premières marches de l'escalier. Qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ici, vous et moi, à devoir s'expliquer? Un décor défiguré pour que les masques tombent. Rod reste silencieux. Dès notre première rencontre, se remémore Chris, j'ai éprouvé pour vous une véritable sympathie. La loyauté dont vous avez fait preuve envers votre employeur a forcé mon respect. J'ai par la suite souvent été étonné de vous voir présent à la bonne place, au bon moment, que ce soit à la taverne ou ailleurs. Je n'ai tué personne. Vous avez raison. Gagnons du temps. Alors expliquez-moi ce que vous faites dans cette tenue au beau milieu de la nuit. Où étiez-vous pendant que le manoir brûlait? Le gardien reste mutique. Est-ce vous qui avez déclenché l'incendie? Non. La sincérité brute de sa dénégation résonne dans le hall. Chris ne va cependant pas s'en contenter. Vous êtes habillé comme l'homme qui s'est glissé chez moi, comme celui qui, près du puits, a ensuite menacé de m'égorger. Vous savez de quoi je parle? D'ailleurs, la nuit prochaine, est-ce avec vous ou l'un de vos complices que j'ai rendez-vous? Je n'ai aucun complice. La voix de Mallory s'est faite plus grave. Elle a aussi gagné en détermination. Chris repart à la charge. Soit. Vous n'avez aucun complice. Alors abordons le problème différemment. Qu'êtes-vous allé faire sur l'îlot à l'entrée du chenal? Cette fois, Rod est surpris. Christopher pousse son avantage. Est-ce la fausse chapelle ou la tombe qui vous intéressait? Comment savez-vous? Contentez-vous de me répondre. Chris doit bien admettre que son assurance lui vient en partie de l'arme qu'il ne lâche pas dans sa poche. Face à lui, Rod est manifestement loin d'avoir la conscience en paix, et Renard compte élargir la fissure pour la transformer en brèche. Qui êtes-vous réellement, monsieur Mallory? Qui se cache derrière l'impeccable costume de l'intendant dévoué? Êtes-vous de ceux qui veulent se venger ou de ceux qui courent après le magot? Le gardien serre les poings. Chris n'est pas en mesure de savoir si c'est avec l'intention de le frapper ou à cause du stress. Il se cramponne discrètement au pistolet de Kate. Rod le regarde droit dans les yeux. « Je vais vous faire confiance, Renard. N'inversez pas les rôles. Ce que je m'apprête à vous révéler doit rester entre nous. Je ne suis plus à sa près. » Rod se concentre sur ses mains. Il joint les extrémités des doigts. Toutes les nuits, depuis ces derniers mois, je pars en maraude. Voilà pourquoi je suis habillé comme un voleur. Dans quel but? Je fouille. Vous fouillez? Je suis à la recherche de souvenirs pour comprendre. De souvenirs? Très personnels. Que cherchez-vous à comprendre? L'histoire de ma famille. Elle est étroitement liée à celle de Kilthorpe. Mais je ne traque aucun coupable, ni ne convoite aucun trésor. Décidément, ironise Chris. On cherche beaucoup de choses dans cette baie. Allons-y pour les souvenirs très personnels. Rod semble chercher ses mots avant de déclarer. Je vous ai entendu évoquer le nom de Siobhan Roddick. Effectivement, je suis son descendant. C'est donc vous les fleurs sur sa sépulture dans les catacombes ? Il hoche la tête pour confirmer. Mais le reste ne me concerne en rien, se défend-il. Je n'ai surtout jamais menacé de vous égorger. Il hésite et ajoute. Même si c'est bien moi qui suis venu chez vous lors de votre première nuit. Chris hausse un sourcil. Je suis perdu. Pourquoi cette visite nocturne si ce n'était pas pour m'éliminer ? Pour chercher. Je vous l'ai dit, je ne fais que ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous occupiez déjà les lieux. Je voulais mener à bien mes fouilles avant que vous n'investissiez la place. Qu'espériez-vous récolter ? Des lettres, même si je doute qu'elles existent encore. Je désirais en avoir le cœur net. Des lettres ? De qui ? Rod soupire. Siobhan Roddick s'est présentée à Kilthorpe environ un an après le massacre, dont il ignorait tout. Elle était jeune et cherchait simplement du travail. Il était prévu qu'elle soit embauchée par une relation au village du plateau, mais le bourg ayant été rasé, elle a échoué ici, dans la baie. Apparemment touchée par sa détresse, Peter Kinlock l'a engagée pour tenir sa maison et surtout s'occuper de sa jeune sœur. Siobhan aidait Hayley tout autant qu'elle lui tenait compagnie. L'aînée étant monopolisée par sa charge, elles se retrouvaient souvent toutes les deux, aussi bien pour étudier que pour s'occuper des animaux, ce qui a rapidement fait naître entre elles une véritable complicité. Je pense qu'à défaut de remplacer la mère, Siobhan comblait un vide. Ensemble, elles soignaient leur solitude réciproque. Mon ancêtre et ce qui restait de la famille Kinlock se sont si bien entendus qu'elle est restée à leur service jusqu'à la fin de sa vie, sa courte vie. Elle n'était donc en rien liée aux affaires de trésor ou de tuerie ? En rien. Qu'entendez-vous par sa courte vie ? Siobhan est tombée enceinte hors mariage d'un marin espagnol qui ne l'a certainement jamais su. En un temps où ce genre de situation vous condamnait aux flammes de l'enfer, Peter et Hayley l'ont accepté et l'enfant est né chez eux. Beaucoup dans le village ont voulu chasser la mère et son petit. Certains ont prétendu qu'ils portaient malheur, qu'ils jetaient le déshonneur sur leur communauté. Mais les Kinlock les ont protégés. Malgré cela, sans que l'on puisse établir précisément qui en était à l'origine, la mère célibataire et l'enfant, que tout le monde surnommait le bâtard, sont devenus les cibles d'actes de plus en plus malveillants. Il semble qu'un jour le gamin ait été pris à partie alors qu'il gardait un troupeau dans la lande. Il a été battu et laissé pour mort. Siobhan ne l'a pas supporté et a mis fin à ses jours. Les horreurs traversées par les habitants ne les ont pas dissuadés d'en commettre. Déjouant tous les pronostics, le garçon s'en est finalement sorti et Peter Kinlock l'a adopté comme son propre fils. Loin d'apaiser la vindicte des sectaires du village, la mort de Siobhan n'a fait que renforcer leur récrimination et leur haine envers son enfant. Les circonstances restent mystérieuses, mais il n'aura pas vécu vieux. D'une façon ou d'une autre, ils ont fini par avoir sa peau. Pauvre gosse. Bien qu'étant le chef du village, Kinlock n'a pas réussi à le faire inhumer au cimetière. Sa dépouille a tout juste été tolérée sur l'îlot le plus éloigné, qui ne porte même pas de nom. L'épitaphe sur la pierre tombale s'explique, tout comme les quelques mots en espagnol. Vous savez tout. Fin de l'histoire. Elle ne s'arrête cependant pas avec ce drame, sinon que feriez-vous là ? Rod n'hésite qu'un instant avant de préciser. Siobhan avait un frère, avec qui elle correspondait, et c'est de lui que je suis le descendant direct. Ne recevant plus de nouvelles, il l'a recherché, finissant même par se lancer dans un voyage aussi périlleux qu'il pouvait l'être à l'époque. Peter Kinlock l'a reçu. Il lui a expliqué que n'ayant aucun coupable à désigner, il serait difficile d'obtenir justice pour sa sœur et son neveu. Le frère de Siobhan est reparti, faisant de cette tragédie le socle et la toile de fond de notre propre histoire. Depuis, en l'honneur de Siobhan et de son fils, tous les mâles nés dans notre lignée portent des prénoms qui commencent par les mêmes lettres que ce nom de Roddick qui fut maudit ici. On a eu des Ronald, des Rodney à l'appel, quelques Rodolphe aussi, même un Rodtang en Thaïlande. Je suis moi-même le quatrième Rod. C'est cette correspondance que vous êtes venu essayer de récupérer à Kilthorpe ? Oui. Nous n'avons qu'une partie des lettres que Siobhan a envoyées. et je suis certain qu'elle a conservé les réponses de son frère. Je voulais tout réunir. Pour en finir. Afin que si un jour j'ai un fils, je puisse l'appeler Trent ou Kyle sans lui faire porter le poids du passé. Il se redresse. Une fois mes fouilles terminées, quoi qu'elles aient pu donner, je comptais présenter ma démission à M. Hanford et partir mener une vraie vie ailleurs. Sauf qu'en cherchant, j'ai découvert les légendes de la baie, mais aussi quelque chose que tout le monde paraît ignorer. Mallory fixe Renyard, qui reste suspendu à ses lèvres. Très peu de navires faisaient escale au port, pas plus de 3 par an. Apparemment toujours les mêmes, exclusivement espagnols. Du coup, je m'y suis intéressé. Au cours de mes demandes de documentation auprès de différents musées d'Europe, je n'ai trouvé aucune trace d'un bateau portugais, hollandais ou français ayant jamais fait halte ici. Plus étonnant encore, Kilthorpe ne figure sur aucune carte marine de l'époque, pas même en Espagne, comme si son mouillage n'existait tout simplement pas. Les raisons de le maintenir clandestin étaient certainement excellentes. Pas pour tout le monde, néanmoins, car j'ai compris à travers les lettres de Siobhan en possession de ma famille que d'illustres personnages sont venus à Kilthorpe. D'illustres personnages ? Des dignitaires, des puissants, et même un monarque. Les lettres de votre aïeul évoquent-elles le but de leur visite ? Dans l'une d'elles, elle écrit simplement qu'il venait se prosterner devant un pouvoir capable de faire naître ou d'anéantir les royaumes. Mallory est stupéfait. Comment pouvez-vous savoir ? Votre ancêtre n'est pas la seule à avoir employé ces mots. Avez-vous une idée de ce qu'elle a voulu dire ? Quel pourrait être ce pouvoir ? La cause de bien des malheurs. Jusque dans votre famille, je suis prêt à le parier. En se frictionnant nerveusement le crâne, Mallory grogne comme une bête entravée. À mon tour de vous poser la question, monsieur Renyard. Qui êtes-vous réellement ? Vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes qu'un héritier de plus. C'est pourtant bien le cas. Vous en savez davantage que ceux qui cherchent depuis des années. Ce n'est pas ma faute si tout le monde se confie à moi. Vous en êtes le dernier exemple en date. J'ignore pourquoi. À la mauvaise place, au mauvais moment. Plutôt, à la pire place, au pire moment. Si vous dites vrai, alors Kilthorpe va certainement vous broyer comme tous les innocents qui s'y sont frottés. La réponse viendra dans moins de 24 heures. Besoin d'un coup de main ? Je ne dis pas non.